du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Saint-Aventin, 94.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Présence Midi, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce début de semaine en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h alors que la saison des pèlerinages touche à sa fin au sanctuaire de Lourdes. Le sanctuaire continue d'accueillir les nombreux pèlerins. Le recteur du sanctuaire de Lourdes, le père Michel Deban, sera dans quelques instants l'invité de David Torchala. Et puis nous resterons à Lourdes, le film Saisonnière qui a été diffusé sur France 3 il y a quelques jours nous plonge dans le quotidien des travailleurs saisonniers à Lourdes, un documentaire lucide qui sera l'objet d'une interview avec la réalisatrice Isabelle Mandin, sera au micro de Philippe Subercaz, en replay d'ailleurs que vous pouvez d'ores et déjà visionner sur le site de France 3. Et puis nous recevrons également dans l'émission de Mathias Terrier de passage à Lourdes, et bien Michel Cole qui est éditeur, journaliste, écrivain. Il a publié un livre qui s'intitule Conversion au silence, paru en 2011. Mais pour le moment, place à l'actualité régionale avec les titres à la une. Éric Leclerc.
Mise en place d'une nouvelle zone réglementée relative à la dermatose nodulaire contagieuse bovine dans 16 communes supplémentaires de l'Ariège, suite à un nouveau foyer confirmé ce samedi 25 octobre dans le département des Pyrénées-Orientales. En conséquence, une zone de surveillance est mise en place dans un rayon de 50 km autour de ce foyer. Elle concerne 16 nouvelles communes du département de l'Ariège. La liste des mesures mises en place dans ces communes figure dans un arrêté préfectoral. La vaccination a débuté jeudi 23 octobre en Ariège sur les 9 communes déjà concernées par les zones réglementées. Vendredi dernier, les équipes de la centrale nucléaire de Golfech ont déconnecté du réseau électrique national l'unité de production numéro 1 suite à l'indisponibilité d'un tableau électrique en raison d'un défaut sur un câble d'alimentation situé dans la partie non nucléaire de l'installation. Cette déconnexion a été réalisée en toute sûreté et conformément aux procédures d'exploitation, indique EDF. Tout devrait rentrer dans l'ordre dans quelques jours. Alors que le projet de loi de finances pour 2026 poursuit son parcours parlementaire avec l'examen du texte en séance plénière, l'Association nationale des maires des stations de montagne appelle les députés à la responsabilité pour ne pas faire peser sur les communes l'instabilité des politiques nationales. Les maires des stations de montagne dénoncent une accumulation de mesures qui étranglent les communes touristiques, alors même qu'on leur demande d'en faire toujours plus.
Merci Éric Leclerc, voilà pour les titres à la une de l'actualité régionale. 12h et quasiment 5 minutes, on s'intéresse maintenant à l'actualité du sanctuaire de Lourdes avec le père Michel Deban, recteur du sanctuaire, au micro de David Torchala.
Présence à Saint-Céré, 95.8.
Quand les foules de l'été se sont éloignées, que la lumière se fait plus douce et que la grotte semble respirer le silence, Lourdes ne s'endort pas. Au contraire, le sanctuaire poursuit sa mission d'accueil et de prière des pèlerins qui ne cessent de venir du monde entier, ben oui, même hors saison. Nous en parlons aujourd'hui avec le père Michel Deban. Bonjour père.
Bonjour David.
Vous êtes le recteur du sanctuaire. Évidemment, vous êtes un témoin privilégié, j'ai envie de dire, de la présence, en tout cas continue, des pèlerins également pendant l'hiver. Est-ce que finalement peut-on dire que l'hiver c'est un temps qui évoque le repos, mais derrière les apparences, eh bien la vie continue. Qu'est-ce que vous voudriez dire ou répondre, en tout cas aux personnes qui ignorent peut-être que le sanctuaire reste ouvert tout l'hiver?
Le sanctuaire reste effectivement ouvert du 1er janvier au 31 décembre. Si je devais qualifier peut-être l'ambiance du sanctuaire au-delà des foules que vous avez évoquées et qui sont très très importantes l'été, je dirais qu'alors, si le sanctuaire était une classe d'école, l'ambiance serait studieuse. Dans le sanctuaire Jean de Lourdes, l'ambiance elle est priante, vraiment, et certains apprécient particulièrement, nous tous d'ailleurs, bien sûr, d'une certaine manière, mais les foules sont importantes parce que ce sont également elles qui donnent vie véritablement au sanctuaire. Les Lourdais apprécient de venir à la grotte pour prier dans une période qui est effectivement plus calme et où ils ont moins d'activité économique, surtout quand c'est en lien évidemment avec le sanctuaire. Et puis, il y a aussi des groupes qui viennent du monde entier, qui viennent d'autres continents, qui ne sont pas les pèlerinages organisés que nous recevons pendant la saison des pèlerinages, mais qui donnent vraiment vie. C'est aussi des groupes qui sont très internationaux, donc c'est une autre figure. Et puis bien sûr, il y a les fêtes, hein. le 8 décembre, Noël évidemment, et après tout le mois de février avec le 11 février, le 18 février, et des foules importantes également peuvent venir. Je pense qu'il faut cesser d'avoir dans la tête l'image d'un sanctuaire qui vit vraiment l'été et qui s'endort l'hiver. Non, non, il vit vraiment toute l'année, d'une autre manière certes, mais il vit vraiment.
Les fêtes, évidemment, qui jalonnent ce temps d'hiver, on va en parler ensemble, mais peut-être il y a d'abord un temps assez marquant, traditionnellement sur la fin du mois d'octobre, c'est ce temps d'échange, de relecture, de partage avec la communauté d'accueil, ces hommes, ces femmes qui, peut-être dans l'ombre, accueillent les pèlerins. Vous allez réunir cette communauté d'accueil dans quelques jours. C'est pour vous l'occasion de les remercier pour le service rendu. Quel message vous allez leur donner ?
C'est un temps très important que j'ai mis en place dès mon arrivée et qui scande la saison à son début et à sa fin. Je pense que c'est important de se mobiliser avant la dispersion chacun dans nos missions, dans nos vocations respectives. Et il est important de nous réunir pour effectivement se rendre compte de ce qui s'est vécu. J'allais dire s'en féliciter, oui, d'une certaine manière. Je pense que c'est important de remercier les uns et les autres pour tout ce qui a été fait, pour tout ce que chacun a été. Rendre grâce dans la foi. À travers un film, c'est se rendre compte de tout ce qui s'est vécu de très très beau. Et c'est aussi un temps fort pour prier ensemble, pour partager, et puis pour honorer un temps de convivialité. Et on a la chance cette année, en plus, d'avoir un autre évêque qui sera avec nous. Et voilà, je m'en réjouis vraiment.
Certains d'entre eux vont quitter le sanctuaire parce qu'ils sont employés saisonniers ou parce qu'ils sont bénévoles, qu'ils ont terminé leur saison ou leur mission de vie religieuse aussi dans le sanctuaire. Et puis d'autres vont continuer parce que c'est aussi ça l'hiver, hein, finalement. C'est aussi une offre pastorale aussi pour ces pèlerins et ces groupes de l'hiver.
Tout à fait.
Quelles sont les propositions qui peuvent être vécues finalement? On dit toujours la messe quand même en hiver, tous les jours.
Ah, mais évidemment, le programme des messes est quelque peu réduit, mais il est encore bien consistant. Les chapelets, évidemment, ne cessent pas. La prière, elle est continuelle. Les temps de procession, alors il n'y a pas les processions, les grandes processions de l'été, mais par contre, tous les week-ends, pendant tous les temps de vacances, nous allons renforcer assez notablement les propositions de chapelet au flambeau à la grotte. Et ça correspond à une demande qui est forte. On en a programmé plus l'année dernière et on a compris qu'il fallait progresser de ce côté-là. Parce qu'en fait, c'est un temps qui est vraiment fort. On vient beaucoup pour la procession du soir. On tient beaucoup à prier devant avec notre
flambeau.
Notre flambeau, merci.
Le 11 novembre, vous avez souhaité organiser une journée de prière pour la paix. Et vous avez fait le choix d'inviter Monseigneur Rantzia, qui est l'évêque de l'éparchie ukrainienne Saint-Vladimir le Grand de Paris. En quoi cette prière pour la paix s'inscrit-elle dans la mission spirituelle de Lourdes ?
De fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment déterminant dans ce monde de signifier à quel point l'Église, d'une manière générale, veut la paix, prie la paix, fais la paix, fais des initiatives, prends des initiatives de paix. Notre pape Léon a donné, j'allais dire, le, enfin, non pas le point de départ, mais en tout cas, il a marqué le début de son pontificat par cette insistance sur la paix. Nous avons célébré en juillet dernier les 80 ans de Pax Christi avec un groupe certes modeste, mais symboliquement très très important, pour rendre visible la place que la paix occupe dans notre prière. Je me suis rendu l'année dernière en Ukraine, dans le sanctuaire de Sarvanitsia, pour justement rencontrer les évêques de cette église gréco-catholique, qui est évidemment, comme tous les Ukrainiens, très très marquée par ce drame de la guerre qui, hélas, dure. Et il m'a semblé plus important que jamais de le signifier à travers cette proposition qui sera modeste. Alors, le 11 novembre, c'est pas le hasard, évidemment, hein, jour de l'armistice, de la guerre de 14-18, avec donc ce nouvel évêque qui va venir pour la célébration de la messe en fin de matinée, pour la prière du chapelet l'après-midi, pour une conférence, pour voilà, un certain nombre de rencontres pour rendre vraiment visible ce lien également avec la paroisse gréco-catholique qui est aussi à Lourdes, et donc pour montrer à quel point localement et symboliquement nous sommes partenaires de tous ceux qui souffrent du fait de la violence de la guerre et en particulier de l'Ukraine.
Dans le symbole, évidemment, cette date de l'armistice n'est pas un choix au hasard. On connaît Lourdes comme une terre de guérison. C'est aussi une terre de réconciliation. Alors, il y a peut-être plusieurs sens aussi, mais comment finalement peut-on essayer depuis Lourdes finalement de rapprocher les peuples?
Ben, je pense que c'est la réconciliation déjà, comme vous venez de le dire, dans les cœurs, avec tout ce qui se vit dans la chapelle des confessions, avec des personnes qui sont brisées par le mal, dans lequel elles sont plus ou moins prisonnières, complices. Donc déjà, c'est restaurer la personne en tant que telle, et ensuite l'objectif, c'est de restaurer les relations les uns avec les autres, parfois au sein d'une même communauté, et puis plus largement entre les peuples, être artisan, être témoin d'une paix qui nous vient du ressuscité, me semble aujourd'hui extrêmement important, et c'est visible à travers la messe internationale, à travers les processions du soir. On ne voit jamais, on ne sait jamais vient de quel pays, qui parle telle langue, parce qu'en fait on a de plus en plus l'habitude évidemment de prier le « Je vous salue Marie » en latin, de plus en plus de facilité à le réciter aussi à l'italien, parce que l'italien est important, comme le français. Enfin, bref, je pense qu'il y a une internationalisation qui est vraiment le symbole de l'universalité, de la catholicité de l'Église, et j'allais dire, ça se fait tout seul. On se découvre à Lourdes, ou on se redécouvre membre d'une seule et même Église, et donc membre d'une seule et même humanité.
Ça sera aussi l'occasion, au moment de la Toussaint, puisque l'Église nous amène, voilà, à nous tourner vers la lumière des saints, de pouvoir là aussi vivre un grand temps d'Église avec tous les saints qui sont au ciel, et puis également prier pour nos familles, nos défunts. Qu'est-ce que propose le sanctuaire pour cette occasion? Est-ce que ce n'est pas finalement l'occasion aussi de déposer un cierge pour nos familles, pour nos proches, pour nos défunts?
Oui, bien sûr.
Aborder la Toussaint depuis
comme cela se fait du 1er janvier au 31 décembre, là aussi. J'ai envie de dire, la Toussaint, le sanctuaire de Lourdes va la vivre comme toute l'Église, c'est-à-dire que ni plus ni moins, mais pas moins non plus. Et de fait, c'est aussi le fait de nous rappeler cette vocation à la sainteté, à laquelle nous sommes tous appelés. Le pape Léon a canonisé récemment Carlo Acutis, Pierre-Joseph Frassati, et de fait, alors, la figure de ces deux saints qui parlent particulièrement à la jeunesse, a eu un réel impact dans le sanctuaire, parce que la pastorale de jeunes, des jeunes y est aussi très très importante. Et de fait, c'est le fait fondamentalement de nous rappeler que au-delà effectivement de la prière des défunts, qui est plutôt la prière du 2 novembre, c'est quand même un appel à la sainteté, et donc un appel à la vie, un appel à la joie, et il faut que ça se voie, il faut que ça se sente, il faut que ça se médite, que ça s'intériorise.
Évidemment, l'hiver est jalonné par ces fêtes religieuses. Il y a évidemment cette fête du 8 décembre, cette fête de l'Immaculée Conception. Quelque part, elle rappelle, elle remet peut-être le sanctuaire à la source du message de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous. Pour, selon vous, quelle signification, voilà, revêt particulièrement cette fête?
La fête de l'Immaculée Conception, elle est évidente dans le sanctuaire de Lourdes, puisque c'est quand même ici même, à la grotte de Massabielle, que la Vierge a proclamé son identité à Bernadette, l'a révélée à Bernadette. Elle a été la première réceptrice de cette merveilleuse nouvelle qui venait d'être édictée 4 années plus tôt avec le dogme de l'Immaculée Conception par le pape. Et donc, de fait, on est particulièrement habilité à célébrer, à fêter l'Immaculée Conception. Et là aussi, cette fête nous rappelle que, de fait, à la suite de la Vierge Marie, qui est notre mère dans la foi, nous sommes tous appelés à cette même sainteté.
Alors, il y a un geste, un hommage floral qui est fait chaque année, le 8 décembre, à la grotte. Quelle est la signification, finalement, de ce geste, cette offrande d'une fleur au pied de la Vierge Marie à la grotte?
Bah, les roses blanches, d'abord, même sans être à Lourdes, elles nous plaisent toujours.
C'est vrai.
Et ensuite, je pense que là aussi, dans la symbolique de la fête, c'est vraiment très très beau, parce que nous sommes renvoyés à cette rose que la Vierge avait sur chaque pied, comme Bernadette l'avait décrite. Et puis, il y a aussi ce rosier qui fleurit de temps à autre, qui a fleuri ces derniers jours pour le pèlerinage du rosaire. C'était absolument magnifique. Nous ne l'avons pas commandé, hein. Les jardiniers n'ont rien fait du sanctuaire, hein, pour que cette rose soit là, présente pour la fête. Je me rappelle, il y a 2 ans, pour le 8 décembre, le rosier était en fleurs. Enfin, c'est magnifique de voir à quel point la beauté dans cette grotte nous marque et rejoint véritablement le message qui touche et qui renforce notre foi.
C'est vrai qu'on aime faire la fête à Lourdes, dans le sens vraiment de célébrer grandement, et c'est propre aux grandes liturgies du sanctuaire. L'hiver nous amène évidemment au cœur de cette fête de la nativité, qui est un sommet, hein, quand même, pour notre foi de chrétiens. Qu'est-ce que le sanctuaire prépare pour ce Noël 2025?
De très très belles choses. Ah. J'invite tous ceux qui nous écoutent à venir à l'occasion de ce temps de l'Avent qui débouchera sur ce temps effectivement de Noël. Nous avons voulu cette année proposer un magnifique arbre de Noël. Nous avons voulu aussi mettre en valeur la crèche avec une exposition peut-être modeste cette année, qui s'étoffera l'année prochaine, mais de différentes crèches du monde, en tout cas de différentes provenances. Les jeunes du Cénacle, du Cénacolo, qui est aussi un magnifique lieu de la ville de Lourdes, non éloigné du sanctuaire, viendra le dimanche 21, le dimanche 28, dans l'après-midi, pour produire leur mise en scène du récit de l'Évangile. Je n'en dis pas plus sciemment. Voilà, c'est des événements pour que vraiment cette fête, elle soit plus belle, et puis porteuse de sens, bien sûr, par rapport à ce que nous vivons, pour marquer aussi, quelque part, on va vers la fin de ce jubilé de l'espérance, et pour dire que le cœur de la foi avec la nativité, c'est précisément l'espérance qui a jailli pour le monde et dont on ne cesse de bénéficier.
Voilà, alors que beaucoup pouvaient imaginer qu'à Lourdes, on s'endort pendant la hors saison, et bien non, le recteur du sanctuaire, le père Michel Dauba, nous démontre le contraire, et voilà, nous confirmer que le sanctuaire vit bien, pleinement, en tout cas, sa mission auprès des pèlerins. Alors s'il y a encore, c'est ma dernière question, des personnes qui hésiteraient encore de venir à Lourdes pendant l'hiver, qu'est-ce que vous leur diriez?
Je leur dirais que même s'il fait froid, qu'elle n'hésite pas à venir, parce que Marie est toujours là pour réconforter chacun et donc réchauffer chacun dans les corps, dans les cœurs.
Merci beaucoup, Père Michel Lauban.
Je vous en prie.
À une prochaine fois.
Présence.
Et le Père Michel Lauban était au micro de David Torchala. On reste à Lourdes dans un instant avec le film Saisonnière qui a été diffusé sur France 3 Occitanie il y a quelques jours. Ce documentaire nous plonge dans le quotidien des travailleurs saisonniers à Lourdes. La réalisatrice sera au micro de Philippe Subercase dans une minute.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Radio Présence, dans la vallée du Lot, 92.5.
Elles sont la force vive de Lourdes, celles qu'on ne voit pas toujours, mais sans qui rien ne fonctionnerait vraiment. Femmes de chambre, serveuses, commerçantes, chefs d'entreprise, elles vivent au rythme des saisons, de l'arrivée des pèlerins au calme de l'hiver. Le film Saisonnière, signé Isabelle Mandeng, a été diffusé jeudi soir sur France 3, et qui est en proposition, en replay toujours, nous plonge dans leur quotidien entre précarité, passion du métier et attachement profond à la ville de Lourdes. Un documentaire à la fois sensible et lucide sur celles qui font battre le cœur de la cité mariale quand les hôtels Lourdes ouvrent et que la saison redémarre. Et justement, eh bien aujourd'hui, nous recevons Isabelle Mandeng. Vous êtes accompagnée de Cécile Durand-Mourin. Merci à toutes les deux d'avoir accepté cet entretien. On va parler de votre film documentaire donc, qui a été diffusé sur France 3 Occitanie dans la case qui s'appelle « La France en vrai ». Alors si on veut le chercher sur le replay, vous allez sur France Télévisions. Dans la barre de recherche, on marque saisonnière, et là, il n'y aura pas saisonnière qui, mais la France en vrai, on clique là-dessus et on voit le reportage. Voilà pour les explications techniques. Merci à toutes les deux d'être venues.
Merci, bonjour.
Bonjour.
Isabelle Mandeng, pourquoi vous avez voulu faire ce documentaire, et particulièrement avec cet angle-là, par le prisme des saisonniers, qu'ils soient saisonnières salariés ou saisonnières chefs d'entreprise?
En fait, ma famille maternelle est originaire de Lourdes et dans ma famille, beaucoup de femmes ont travaillé, comme les Lourdaises, quoi, dans des commerces, hôtellerie, restauration. Et quand j'ai commencé à faire des documentaires, j'ai toujours eu une curiosité pour ce qui se faisait sur le sujet de Lourdes. Et il est souvent question du sanctuaire, des pèlerins, de ce que les personnes viennent y chercher autour de la foi. Mais jamais, en fait, de toutes celles et ceux qui font, qui rendent ça possible, en fait. Donc c'est ça qui m'a donné envie de montrer un peu l'envers du décor et de montrer qu'à Lourdes, il n'y a pas que la religion, il y a aussi tout simplement des gens qui y vivent et y travaillent, certes dans un contexte un peu particulier, mais qui sont aussi préoccupés par les mêmes sujets qui concernent
la vie de tous les jours,
voilà,
et les inquiétudes de tous les jours.
C'est ça.
Voilà, gagner sa vie, payer ses factures, élever ses enfants et vivre tout simplement, hein, à travers ce fait qui est un peu particulier à Lourdes. On est sur la religion, le spirituel, quoi.
Tout à fait.
Au début de votre reportage, il y a des images. On débute et on termine par des images d'archives, hein, sur Lourdes. Pourquoi avoir débuté et terminé par ces images d'archives?
Alors déjà, je peux préciser quand même que les images d'archives du film,
oui,
je les ai trouvées à la Cinémathèque Bretagne. Voilà. Il y a énormément d'archives sur Lourdes à la Cinémathèque bretonne, plus qu'à Toulouse d'ailleurs, c'est assez surprenant. Et pourquoi commencer et terminer par ça? C'était pour montrer qu'il y avait quand même une présence féminine déjà très importante à l'époque. Et puis c'était pour resituer Lourdes dans son histoire, c'est-à-dire dans une histoire assez extraordinaire en fait, et qui dure depuis longtemps. Et voilà, et puis parce que je trouve les images très belles. Les images de fin sont réalisées par un réalisateur de film expérimental belge et datent de 1932.
Est-ce que c'était difficile de trouver des personnes qui ont bien voulu se laisser filmer dans leur travail, dans leur vie? Il y a des images au château, où il y a un partage d'un pique-nique où on raconte sa journée. Il y a vous, hein, Cécile, où on vous voit travailler avec un groupe, avec les difficultés que vous avez à essayer d'abord de les discipliner. Et puis, vous avez un problème de lumière aussi pour la photo.
Oui, c'est vrai.
Dans le documentaire, on vous voit travailler. Est-ce que ça a été difficile de dire oui à Isabelle Mandem?
Non, parce que je suis un petit peu sauvage et Isabelle m'avait rencontrée sur l'esplanade avant le Covid, donc en 2018. Puis elle m'a rappelé ensuite. C'est pas que j'étais pas enthousiaste, c'est que oui, je suis un petit peu sauvage, mais mon boulot n'est pas facile. Et en même temps, je me suis dit, elle a un beau projet, donc il faut dire oui. Voilà. Pour être sincère, c'était ça. Et je n'ai aucun regret. Je trouve le film très réussi, très beau. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand on vient vous filmer dans votre quotidien, dans votre travail. En même temps, c'est pas insurmontable. Mais ce qui est, il faut oublier la caméra, en fait. Voilà.
On l'oublie peut-être avec Isabelle Mandem, quand on a peut-être une amitié qui est née entre toutes les deux.
Alors, oublier la caméra, ça dépend des scènes.
Oui.
Quand on fait la photo de groupe dont vous parlez, donc c'est le diocèse de Leeds, qui sont pas difficiles à discipliner parce qu'ils veulent leurs photos, c'est plutôt joyeux. C'est vrai qu'on avait un gros souci d'éclairage, donc j'avais, j'ai oublié la caméra. Oui, là j'ai oublié la caméra. Après, quand vous êtes interviewé ou comme ça, là vous l'oubliez pas. Mais dans le cadre de mon travail en situation réelle, oui, j'ai oublié la caméra.
Je pense que, bien sûr, il y a plein de rushs et de choses qui n'ont pas été mises, parce qu'on filme beaucoup, et puis on sélectionne, on coupe, on monte. Vous avez été surprise du résultat, quand on n'a pas l'habitude d'être devant la caméra?
Alors, oui et non. En fait, sur le plan pratique, effectivement, Isabelle m'a beaucoup plus filmée par rapport au nombre de scènes dans lesquelles j'apparais, elle m'a beaucoup plus filmée. J'ai pas été vraiment étonnée parce que je suis quand même dans la photo, j'ai fait d'autres choses qui liées à l'image dans ma vie, donc je sais très bien qu'au montage, les rushs, je sais ce que c'est. J'ai fait moi-même des vidéos à une époque, donc je sais très bien que les rushs sont immenses et qu'on fait des sélections. Où j'ai été étonnée sur le fond, c'est qu'en fait, et agréablement surprise, c'est que je trouve que Isabelle raconte un chemin aussi. Qu'elle parlait déjà, la voix off à la première personne et qu'elle racontait aussi son histoire. Et ça m'a beaucoup plu.
Ça vous a beaucoup plu. Oui. Vous racontez un peu la vôtre, puisque vous vous livrez quand même quelque part en disant que c'est une affaire familiale et que vous étiez parti faire autre chose et puis vous êtes revenu.
Oui.
Vous vous livrez aussi un petit peu dans ce phénomène lourd de quelque part, hein, de parents, d'arrière-grands-parents. On en est à la troisième ou quatrième génération qui, certains sont toujours là et vivent et font vivre Lourdes.
Oui. Oui, c'est vrai que je me livre un petit peu. Moi, c'est mon arrière-grand-père qui a commencé. Mon grand-père qui a été le premier à faire du reportage au sein des sanctuaires. Mon père qui a pris la suite, qui a développé l'affaire à la suite avec mon grand-père et à sa suite, qui a fait un très beau livre de photos sur Lourdes, 20 ans de travail donc dans les années 80-90. Et donc, quand il a eu besoin de moi, c'est vrai que je suis revenue.
Oui, c'est ce que vous dites dans le reportage.
Oui, oui.
Isabelle Mandem, vous dites dans le reportage, et c'est important, hein, vous le dites peut-être à plusieurs reprises, mais on le sent, Lourdes s'est fait avec les femmes. Vous aimez bien le dire, que Lourdes s'est créée avec les femmes. C'est vrai qu'au début des apparitions, puis il y a eu les guerres, donc les maris sont partis sur le front, la première guerre, la seconde guerre, et les femmes étaient là, elles ont travaillé pour Lourdes.
Oui, Lourdes et partout ailleurs en fait. Dans mon travail, moi j'ai pour habitude de mettre à l'honneur les femmes dans les films que j'ai faits. Précédemment, j'ai fait un film que j'ai co-signé avec Tessie Lopez sur les agricultrices qui s'appelle Croquante et qui montrait déjà l'invisibilisation en fait du travail des femmes d'une manière générale. Et en agriculture, c'est très prégnant. Et du coup, ce qui me plaisait à Lourdes, c'est qu'il y a quand même cette
reconnaissance du travail des femmes, oui, qui est quand même acté. Il y a Bernadette Pécassou Camebra qui avait fait un livre aussi et qui m'avait gentiment rencontrée au début de ce projet. Et du coup, je trouvais que c'était plus facile de poser ce constat-là ici, parce que je sais que l'idée est acceptée, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Et moi, dans mon travail, je travaille à mettre en lumière des personnes qu'on voit peu, en général, dans les films ou dans les médias de manière générale. Et ça concerne particulièrement les femmes, et très particulièrement les femmes de plus de 50 ans.
Il y a, bien sûr, vous évoquez cette fermeture qui a été internationale avec le Covid, hein, où toute la Terre entière s'est arrêtée pendant cette pandémie. Vous mettez l'accent là-dessus et vous avez l'air de dire que Lourdes a souffert peut-être plus que d'autres endroits touristiques. Pourquoi Lourdes plus que d'autres villes qui ont aussi fermé et qui vivent aussi du tourisme? Pourquoi vous avez voulu mettre cet accent là de façon un petit peu dramatique, avec vous prenez le temps de voir tous ces rideaux qui sont fermés les uns derrière les autres?
Alors, je ne sais pas si Lourdes a été plus touchée que Rome ou que d'autres villes.
C'est peut-être que Cécile vous voulez réagir là-dessus.
Oui, parce que on n'est pas un endroit touristique, on est un lieu de pèlerinage, même si évidemment il y a des touristes. Et on accueille des gens fragiles. Donc, moi, j'ai été 2 ans sans travailler. Parce qu'un pèlerinage, ça s'organise des mois à l'avance. Et comme il y a eu le deuxième confinement, eh bien, il y en a beaucoup qui ont annulé parce qu'ils n'ont pas pu organiser des mois à l'avance. Donc, les endroits touristiques sont repartis dès que ça a rouvert. Nous, il a fallu que tout soit réorganisé. Donc, je pense qu'on a... Oui, Lourdes a beaucoup plus souffert du Covid que d'autres.
Pour cette raison-là.
Parce qu'on est un lieu de pèlerinage, qu'on accueille encore une fois des personnes fragiles et que personne... Les organismes, les directions de pèlerinage... Un an avant la saison, ne prenaient pas le risque, sans savoir où ils allaient, d'amener des personnes fragiles et de mettre leur vie en danger.
Il y a aussi l'internationalité de Lourdes qui fait que
Absolument. Les
avions aussi, voilà, c'était pas facile de se déplacer de pays en pays. Hein.
Absolument, et il y a eu un coup d'arrêt justement dans ces déplacements, c'est difficile de les remettre en route. Côté anglais, il y a quand même eu la mise en place du Brexit... Et où ça a compliqué aussi, alors même s'ils sont revenus, mais c'est vrai que pour eux c'est plus compliqué. Donc ça, c'est pas le Covid, mais ça a été un concomitant. Ouais. Voilà. Mais effectivement, Lourdes a été extrêmement impacté par le Covid, plus qu'ailleurs.
Et puis on peut pas nier non plus quand on se balade dans la ville, même si là on sent que ça redémarre et c'est beaucoup plus joyeux. Mais il y a eu quand même des années où il y a eu jusqu'à 160 friches hôtelières en plein centre de la ville. Donc ça crée forcément un climat très particulier aussi pour les gens qui vivent, même si aujourd'hui, voilà, on sent que ça repart.
Alors, vous avez dans votre reportage, il y a ce couple et cette dame qui a une petite pension de famille. Alors quand je dis petite, c'est pas péjoratif du tout.
Non, ben non.
La petite pension de famille où on voit ce monsieur manger un moment tout seul, quelque part, sur cette table, ça nous permet, ça nous... On a l'impression qu'on est revenu à il y a 50 ans en arrière, quoi. Cette petite pension de famille, on dirait qu'on remonte le temps avec cette pension de famille. On n'imagine pas l'hôtellerie comme ça aujourd'hui dans le monde entier. Hein.
Oui, mais c'est aussi la particularité de Lourdes, c'est-à-dire qu'il y a un sens de l'accueil, qu'il y a une culture de cet accueil-là, et il reste peu de petites pensions. D'ailleurs, le Bernice, hein, l'hôtel Bernice de Patrick et Monique Jaimès, c'est la dernière de la rue du Bourg, qui en a compté des dizaines et des dizaines. Voilà. Donc en effet, c'est la fin d'une époque. L'hôtellerie a changé, mais chez eux, des personnes y reviennent avec plaisir tous les ans. Ils ont des habitués qui viennent depuis plus de 30 ans parce qu'il y a un accueil intime et quasi familial, en fait.
Oui, et puis on a l'impression qu'ils mangent bien parce qu'il y a le passage de la commande chez le boucher.
Voilà. Très bonne cuisine.
On sent bien. On va s'arrêter là pour cette semaine. Merci beaucoup à vous, Isabelle Mandin, et également à vous, Cécile Durand-Mourin, de m'avoir accompagné ce matin. On va continuer cet échange sur ce film, un reportage qui s'appelle Saisonnière et que vous pouvez retrouver sur la plateforme de France Télévisions. Je vous invite d'ailleurs à aller le consulter, le portrait de 4 femmes qui travaillent à Lourdes. Voilà, merci beaucoup. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour continuer à échanger sur ce dossier.
Merci à vous, Philippe Subercaz, également. On va rester à Lourdes avec cette fois-ci Mathias Terrier, son invité. Il reçoit Michel Coll dans son émission de passage à Lourdes. Bon appétit à l'écoute de Présence Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Nous allons passer un très bon moment aujourd'hui en compagnie de Michel Coll. Bonjour.
Bonjour Mathias.
Alors on a du mal à vous présenter. Pourquoi ? Parce que d'abord vous avez un parcours très éclectique, même si on va voir que c'est très unifié tout cela. Mais dans l'univers de l'information religieuse, vous avez été éditeur, vous avez été journaliste, j'aurais dû commencer par ça, écrivain, chroniqueur, éditorialiste, que sais-je. Enfin bon, on vous connaît.
Radio-télé aussi.
Radio-télé, on vous connaît à travers des ouvrages. Un ouvrage qui sera peut-être au cœur de notre conversation, qui est Conversion au silence, paru en 2011, où vous racontez qu'il y a une bascule, là, que vous chavirez peut-être d'un catholicisme hérité, traditionnel, sociologique, vers une foi personnelle. Et puis, votre rapport à Lourdes nous intéresse beaucoup. Vous aimez ce lieu dont on dit qu'il est un lieu de piété populaire, alors que vous, j'oserais dire, vous êtes plutôt intellectuel. Ah, oui. Peut-être que vous nous direz que cette simplicité de la foi telle qu'elle est exprimée à la grotte, eh bien, très vite vous rejoint dans votre histoire, dans votre parcours. Bref, des sujets, nous en avons à évoquer ensemble. Mais est-ce que je pourrais dire en commençant que vous avez exercé le métier d'informateur religieux sans vous rendre compte que le bon Dieu marchait à côté de vous et que vous ne le regardiez pas ?
Ouais, c'est une très belle image, ça correspond tout à fait à ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, je suis né dans une famille catholique, pratiquante, j'ai fait mes études dans l'enseignement catholique, jusqu'à mon bac. Voilà, j'étais au catéchisme, j'ai même été enfant de cœur et j'ai même songé, tout petit, à devenir prêtre. Et mes parents m'avaient mis au petit séminaire. Alors vous voyez, à l'époque, il y avait les petits séminaires et j'étais interne à l'âge de 9 ans, vous rendez compte, parce que mes parents croyaient vraiment et respectaient cette envie que j'avais d'être prêtre. Ils s'étaient aperçus que j'aimais bien célébrer la messe sur la table à repasser de ma mère. Ce qui est drôle, c'est que j'ai appris que le pape Léon XIV, quand il était petit, il avait 10 ans, on a à peu près le même âge, il est de 1955, je suis de 1956, et bien lui aussi célébrait la messe sur la table à repasser de sa maman. J'ai fait la même chose. Donc si vous voulez, mes parents ont pris ça très au sérieux. C'est beau d'ailleurs que les parents prennent au sérieux. Hein.
Mais jusqu'à l'âge de 49 ans, vous allez grandir dans la vie, dans la profession, reconnaissance dans le métier. Enfin, vous avez vraiment exercé dans plus de nombreux médias, hein, des très connus. Et à 49 ans, qu'est-ce qui se passe ? C'est un 25 janvier, je crois.
Oui, le 25 janvier, qui, je m'en suis aperçu bien après, qui est la fête de la conversion de Saint-Paul. Le 25 janvier 2007, j'étais dans une abbaye en Belgique, je faisais un reportage, et là, j'ai été saisi par un sentiment violent et doux d'une présence à mes côtés. Or, cette présence à mes côtés, elle n'était pas, si vous voulez, fortuite, elle n'était tombée pas par hasard. Je vivais un moment particulier dans ma vie très, très, très douloureux, puisque j'avais été licencié, un licenciement très sec. Il peut arriver à n'importe qui. J'avais été très touché par la mort de mon père, après une longue, longue maladie, comme on dit, de manière décente. Et puis, j'avais été moi-même frappé par la maladie, enfin, une pathologie s'était révélée, alors que j'avais une santé de fer, moi, j'étais invulnérable. Donc, tout ça en même temps, j'étais devenu quelqu'un de très, très fragile, et j'en souffrais beaucoup. J'en souffrais beaucoup et ça avait donné un sale coup à mon espérance, si je puis dire. Ouais. Et donc là, ce moment-là précis, alors que je me trouvais dans un cadre magnifique, une très belle abbaye, communauté magnifique aussi, j'ai été, à l'heure des Laudes, j'ai été saisi par la main secourable de quelqu'un, avec un Q majuscule, et qui m'a...
Et là, vous rencontrez
qui m'a dit... Quand j'ai voulu expliquer ce qui m'était arrivé, qui a été un tressaillement profond, puisque j'ai eu une crise de larmes, une crise de larmes qui m'a libéré d'une certaine manière et qui m'a surtout apaisé. Et je n'arrivais pas à exprimer intellectuellement, vous disiez que j'étais intellectuel, je n'arrivais pas, moi qui suis plutôt en effet un homme de raison, qui essaie de démontrer, expliquer, c'est ça le but d'un informateur, hein. Et là je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce qui m'était arrivé. Et les seuls mots qui me venaient quand je voulais expliquer ce moment incroyable, extraordinaire que j'avais vécu, c'était « Tu n'es pas seul, je suis là, je t'aime ». Tu n'es pas seul, je suis là, je t'aime. Mais je ne pouvais pas dire autrement. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, vous voyez, bien des années après, je ne sais dire que cela. Je ne peux pas vous dire autre chose. Sauf que, justement, le cateau, je dirais, un peu distrait, le cateau tranquille, autosuffisant que j'étais, et rentrer dans une autre zone, une autre sphère, qui est une sorte de l'intranquillité de la foi. D'une certaine manière, je me suis senti ce jour-là missionné. Sors de ta zone de confort, sors de tes habitudes, sors de ton petit train-train coutumier, et aussi de tes prétentions de journaliste. Je te missionne, je t'envoie, sois un témoin, là où tu es, là où tu vas, soit dans ta famille, dans ton métier, plus difficile dans le milieu des médias, d'autant plus que je fréquentais pas seulement la presse catholique, j'allais aussi dans France Culture, les chaînes de télévision, je participais à l'émission d'Yves Calvi, c'est dans l'air. Bon, c'est pas les lieux, si vous voulez, où dire, vous savez, je crois en Jésus-Christ, c'est pas très valorisant, quoi. Eh bien oui, il fallait que je témoigne. Et si vous voulez, pour moi, ça a été vraiment, comme vous le disiez très bien, un moment de bascule, c'est-à-dire, je me suis senti appelé à être un témoin. Et ben voilà, ça fait plusieurs années maintenant que ça dure, hein, 2007, on est en 2025, ça fait toutes ces années-là, j'essaie maintenant d'être un témoin.
Et ceux qui vous disent, Michel, quelle chance tu as d'avoir rencontré le Christ, je suis pas dans la nuit de la foi, mais je cherche, vous répondez quoi ?
Ben, je reprendrai l'expression que vous aviez tout à l'heure, retourne-toi, il y a quelqu'un derrière toi, ou regarde devant toi, il y a quelqu'un qui vient vers toi. Émile, c'est plutôt ça. Et donc tu ne le vois pas. Parce qu'on est pris par des tas de choses, on est pris par ses propres soucis, préoccupations, ses velléités ambitieuses, enfin. Et on ne fait pas attention. Et puis finalement, quand on prend le temps, ou quand le temps s'impose à nous, c'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes mis face à face avec vous-même, ce qui était mon cas, moi, en 2007, face à toutes ces épreuves. Et là, quand vous prenez un peu le temps de mesurer tout ce qui vous arrive, là. Il surgit, il est là, le Christ est là. Et je dis souvent à ceux qui me disent « Oui, t'as de la chance », je me dis « Mais vous aussi, vous avez eu la chance. » Relisez votre vie, relisez le parcours de votre vie. Vous allez voir, il y a un moment, vous pensiez que vous étiez dans le noir le plus absolu, et puis, paf, il y a eu un jet de lumière. Il y a eu quelque chose, vous vous êtes senti dans un moment d'émerveillement, peut-être comparable à celui qu'ont eu les apôtres au moment de la transfiguration. Demandons-nous dans notre vie quand il y a eu des moments de transfiguration, ces moments où vous avez l'impression que tout se dilate en vous, il y a une lumière extraordinaire qui vous ébranle, mais qui vous réconforte, qui vous réchauffe, qui vous fait du bien, mais pas du bien pour soi, qui vous sort de vos petites misères et de vos peurs surtout. Et c'est là, vous vous dites, là il y a eu un moment comme ça. Ça peut être un moment familial, professionnel, un moment de solitude, une contemplation devant un magnifique paysage. On ne sait pas, ni l'heure ni le jour, mais tous nous avons vocation à rencontrer le Christ, personnellement.
Donc le sujet de la révélation, c'est pas que le Christ ne se révèle pas à nous, c'est que nous ne le voyons pas.
C'est ça, nous sommes des aveugles, et c'est pour ça que j'aime beaucoup venir à Lourdes.
Ah, Lourdes.
C'est un lieu où les aveugles voient. Nous sommes tous des aveugles, mais nous sommes saisis tout de suite par la lumière de Lourdes. Nous sommes saisis par l'onde du Gave. Moi, j'aime écouter le Gave. J'aime beaucoup aller très tôt le matin devant la grotte quand il n'y a quasiment personne, quand on arrive à se lever tôt, vers 5h du matin. Vous installez sur un banc, là, et près du Gave, et on reste là. Moi, je pourrais rester là une heure, à écouter le chant du Gave qui porte ma prière. Pas forcément formulé, et Lourdes est un de ces lieux, justement, où on peut faire le point, relire sa vie, contempler l'humanité dans toute sa diversité et se réconcilier avec nous-mêmes, parce que j'en fais partie de cette humanité. Je crois vraiment que c'est un lieu extraordinaire. Et on voit. Là, on voit.
mais vous acceptez cette part de mystère, vous qui aimez la rationalité, la démonstration.
Oui. Vous disiez d'ailleurs que j'étais un intellectuel. Oui, je suis un intellectuel, mais je viens d'un milieu populaire. Mon grand-père était terrassier, voyait-on. Mon grand-père flamand, parce que j'ai un nom flamand, était terrassier, donc j'ai bien connu ma grand-mère, elle travaillait dans une filature dans le Nord, était ouvrière. Donc, si vous voulez, je connais bien le monde populaire. Je connais bien le monde populaire, et plus je vieillis, je vais vous faire une confidence, plus je vieillis, plus je me sens un fils de ce peuple-là. Et d'ailleurs, je fais une petite confidence, je travaille sur un projet de roman qui aura sans doute une empreinte spirituelle, mais qui veut raconter, rendre hommage à ce peuple-là. Ce peuple qui m'a appris quelque chose qui rejoint beaucoup Bernadette d'ailleurs, qui est la gratitude. Les gens du peuple savent énormément remercier. Et ils savent aussi énormément être humble, modeste et surtout tolérant. Je n'ai jamais connu de gens aussi tolérants que ce qu'on appelait, entre guillemets, j'aime pas ce que ça, les petites gens. Les gens humbles, les petits, quoi. Et moi, ils m'ont appris ça. Je dois beaucoup cela. C'est pour ça que je me sens très à l'aise aussi avec l'histoire de Bernadette. Alors, j'ai écrit un livre sur le mystère de Lourdes. Je parlais justement du mystère. Je suis très respectueux devant le mystère. Je suis très attiré par le mystère. Ce que l'on ne sait pas, ce que l'on ne connaît pas, ça peut étonner de la part d'un journaliste. Parce que généralement, les journalistes ont dit, ouais, ils veulent... Non, mais ils savent tout. Ils sont très documentés, très instruits. Moi, j'aime beaucoup dire, non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Et ce n'est pas un déshonneur pour un journaliste, même après 40 ans de métier, de dire, il y a des choses que je ne sais pas. Je ne sais plus le pourcentage de terra incognita, de lieux inconnus, de terres restées vierges dans notre planète aujourd'hui, que nous ne connaissons pas. Que nous, aujourd'hui, qui avons créé Internet, qui sommes au sommet de la connaissance, il y a encore des endroits du monde que nous ne connaissons pas. Alors, dans le domaine de la foi et dans le domaine de la spiritualité, que de choses nous ne savons pas.
Michel Cole, nous allons nous arrêter quelques instants, si vous le voulez. Juste après, nous continuons cette conversation avec vous. Nous parlerons, tiens, d'un bon coup d'édition que vous n'avez pas souhaité. Lorsque vous sortez ce livre François l'Anticonformiste, eh bien, les cardinaux entrent en conclave. Alors que vous l'avez écrit, j'imagine, des semaines et des mois avant. Enfin, on parle de tout cela, puis aussi votre regard sur l'Église actuelle, sur le pape, notre pape, puisque vous êtes là à l'occasion du pèlerinage de l'Assomption, du pèlerinage national de l'Assomption, avec cette grande famille assomptionniste et puis tous les pèlerins autour du 15 août, et que vous allez vous donner une conférence sur ce sujet. Donc à tout de suite.
Pour mieux connaître Présence, tapez www.radioprésence.com.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Michel Cole est notre invité aujourd'hui. Il témoigne dans cette émission de passage à Lourdes, dont vous disiez que Lourdes est proche finalement de ce que vous vivez. Spirituellement, et puis vous vous sentez très proche de cette petite Bernadette. Mmh. Michel Cole, on a dit que vous étiez écrivain, journaliste, vous avez exercé aussi le métier d'éditeur, patron de rédaction, dans de nombreux médias, alors écrit, audio, télé, voilà. Vous avez œuvré dans tous ces univers. On vous doit un livre sur Lourdes, dont on a parlé, oui. Lourdes, le mystère Lourdes d'hier à aujourd'hui, un livre aussi qui était au cœur du début de conversation que nous avions, votre conversion, ce livre paru en 2011, mais qui fait le récit de ce que vous vivez un 25 janvier 2007 dans une abbaye, dans le nord de la France.
En Belgique.
En Belgique, pardon. Vous racontez votre conversion, ça s'appelle « Conversion au silence ». Et puis là, on en vient à un autre livre tout autre, qui est celui qui paraît le 6 mai 2025, alors même que les cardinaux entrent en conclave pour élire le prochain pape, qui est Benoît XIV. Je disais que c'est un coup d'édition, mais en fait, vous ne l'avez même pas pensé comme ça.
Non. Non. Non, parce que c'est un livre que j'avais entamé à la demande de mes éditeurs, que j'avais commencé à l'automne 2024, pardon, excusez-moi. Et donc, j'étais en train de le travailler. Bon, j'étais très inquiet de voir l'état de santé de notre pape François se dégrader. Mais... Voilà, il n'y avait pas de raison de spéculer sur le décès du pape. Et donc, j'ai été surpris, en effet. J'étais quasiment arrivé au dernier chapitre, quand le pape nous a quittés, ce fameux lundi de Pâques. Et donc, évidemment, à ce moment-là, mes éditeurs ont été très, très rapides. Et le livre est sorti... hasard de circonstances, ou alors certains me disent, mais c'est le Saint-Esprit, sorti le jour où les cardinaux entraient en conclave. C'est extraordinaire.
Oui.
Les cardinaux entraient en conclave. Donc dans le silence, ça n'a pas duré longtemps. Ça a été très rapide, hein, puisqu'ils ont élu très très vite Léon XIV. Mais le livre est sorti ce jour-là. Donc j'y ai vu comme un... D'une certaine manière, j'y ai vu un petit clin d'œil du pape François. D'une certaine manière, qui a dit, bah, je vois, les... Voilà, ils vont élire mon successeur.
François, l'anticonformiste, vous prenez les dossiers un peu fondamentaux sur lesquels il prend la parole, il s'exprime, il fait bouger les lignes, c'est ça ?
Oui, ce qui m'a marqué, si vous voulez, j'ai longtemps été agacé, je suis souvent agacé par les étiquetages que l'on fait des personnages publics, même dans l'Église. Il est progressiste, il est conservateur, il est de droite, il est de gauche, il est ceci, cela. Bon, c'est très humain, on veut toujours étiqueter. Hein. Étiqueter, c'est en même temps réduire considérablement ce qu'est d'abord toute personne, on est tous très complexes, et encore plus une politique ou un pontificat, qui plus est un pontificat. Donc ça me paraissait très, très réducteur et très dommage. Et j'ai cherché donc ce qui pouvait caractériser la personnalité du pape, mais pas seulement sa personnalité, mais aussi son œuvre en tant que, je dirais, prêtre, jésuite, évêque et pape. Parce que c'est un tout. Le pape disait, tout est lié, disait François. Moi, j'aime beaucoup, tout est lié, on ne peut pas couper quelqu'un en rondelles. Ni vous, ni votre vie à vous, ni la mienne. On peut pas, on forme un tout. Et donc, je me suis beaucoup travaillé. Bon, j'ai mis plusieurs années à travailler là-dessus, ça me passionnait. Et j'ai découvert que ce qui caractérisait le mieux le pape François, c'était son anticonformisme, sa liberté extraordinaire. Et la lecture d'un entretien qu'il avait donné à Dominique Volton, le sociologue, m'en a convaincu. Volton lui demande à un moment, mais comment faites-vous pour être aussi décontracté, libre ici au Vatican ? Parce qu'il y a un protocole, il y a des règles. Or, vous êtes un homme qui transgressait les règles. Et il lui répond, moi, je suis libre comme un poisson dans l'eau. Et vous savez pourquoi ? Parce que je suis libre spirituellement. Magnifique ! Il est libre, Max. Libre comme un poisson dans l'eau. C'est la définition, pour moi, simple, accessible à tous, de la liberté spirituelle. Je sais que je suis aimé, je sais que Dieu est toujours à mes côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je connais mes fragilités, je connais mes faiblesses, mes défauts, Dieu sait qu'il les connaissait, hein. Mais je suis libre, et personne ne m'empêchera d'être libre. Et je crois que le pontificat de François, les 12 années que nous avons vécues, montrent cela. Une liberté en mouvement, une liberté en action, qui a pu enthousiasmer certains, agacer d'autres. Mais quand même, ce pontificat, on n'est pas prêt de l'oublier, me semble-t-il. Donc, j'ai voulu expliquer cela et montrer comment s'était manifesté cet anticonformisme du pape François dans des dossiers aussi importants que la diplomatie vaticane, le règlement du problème, du scandale des abus, la synodalité, le lancement sur les rails d'une église synodale, enfin, tous ces grands sujets, les migrants, enfin bon. Donc j'ai repris toutes ces thématiques qui ont profondément scandé le pontificat, et à chaque fois montré que c'était une mise en œuvre de cet anticonformisme spirituel qu'animait le pape François, et qui d'une certaine manière s'adresse à nous aussi. Sommes-nous, dans la société et dans notre Église, des anticonformistes aussi spirituels, capables aussi, nous, de faire bouger les lignes pour qu'on se convertisse un peu plus à l'Évangile ?
Oui, vous considérez que le conformisme, c'est un enfermement.
Bah, le conformisme,
on reproduit au fond.
Moi, je l'ai été, hein. Moi, je l'ai été et je le suis encore. Je l'ai été pendant des années avant ma rencontre, la rencontre, comme je dis souvent, avant la rencontre, j'étais vraiment conformiste. Bon, comme je vous disais, j'étais un cato tiède, sans saveur, certes très instruit des affaires de l'Église, mais pour autant, est-ce que je mouille ma chemise pour annoncer Jésus-Christ dans ma manière d'être, par mon style de vie ? Non. Non. Je réponds non. Bon. Dans ma famille, non, où on est une famille très déchristianisée comme tant d'autres. Non, aujourd'hui, je n'ai plus peur avec mes petits-enfants, d'essayer d'avoir un comportement qui les amène à s'interroger sur le pourquoi j'agis de la sorte. C'est une catéchèse, si vous voulez, familiale.
Bon, mais ça, l'église domestique.
L'église domestique. Mais ça, j'y suis très, très attaché. Je pense que c'est là que ça commence, l'évangélisation. C'est là que ça commence. C'est pas les grands discours. C'est ça, les petits gestes. Hein. Je disais que j'aimais bien Bernadette pour ça aussi. C'est petites choses. Hein. Alors, les petites choses, c'est la grandeur de la foi.
Au cours du pèlerinage national de l'Assomption, vous êtes invité à faire une conférence, non pas sur le pape François, mais sur Benoît XIV.
Non, pas Benoît, Léon.
Léon.
Vous voyez, il va falloir s'habituer.
Léon XIV, autant
que. Je fais la même erreur.
Hein. Ouais. Donc, oui, pourquoi ? Parce que déjà, vous, évidemment, vous intéressez, vous voulez écrire et apporter votre regard sur les 100 premiers jours.
Alors, je vais encore vous faire une confidence. Je m'étais dit, bon, après François, ça sera mon dernier pas, voilà, en tant que journaliste, voilà, je l'ai dit, j'ai envie de faire des romans, d'écrire des romans, j'ai envie de, voilà. Et puis, bon, voilà, j'ai été sollicité, et puis, bon, c'est plus fort que tout, ça m'intéresse quand même de regarder ce qui va devenir des grands chantiers ouverts par le pape François. Donc l'élection de Léon XIV me semble tout à fait significative et intéressante, et la personnalité aussi, qui se découvre peu à peu, avec une prudence qui me rappelle d'ailleurs celle d'un pape que j'aime beaucoup, Montini, Paul VI. On a beaucoup reproché à Paul VI d'être quelqu'un de très pondéré, de prendre son temps, d'être réfléchi. C'était un fils de Saint-Augustin aussi. Il n'était pas augustinien, mais il aimait beaucoup Saint-Augustin. Et chez Saint-Augustin, vous avez toute cette méthodologie de la prise de temps, hein, du connais-toi toi-même avant de faire quoi que ce soit, réfléchis. Enfin, et on retrouve cela chez Robert Prévost, devenu Léon XIV. Cette capacité à ne pas répondre du tac au tac aux sollicitations, de ne pas être pris dans le vertige de l'activisme, et de dire je prends mon temps, je prendrai les décisions en leur temps et en leur heure. Et j'avance à mon pas. Alors ça nous change, c'est vrai, du pape François, qui était beaucoup plus impulsif, qui avait un tempérament, c'était un latino-américain. Alors, celui-ci aussi, mais c'est un américain naturalisé péruvien, c'est un missionnaire. Et ça c'est beau aussi, d'avoir un pape missionnaire à la tête de l'Église aujourd'hui. Il a beaucoup de choses à nous apprendre pour être nous-mêmes des missionnaires dans nos sociétés et d'adopter un style, justement, qui est le style de la patience, de la persévérance, et je dirais de trouver les mots persuasifs et les gestes persuasifs pour donner envie, le désir. Chez saint Augustin, vous avez cette notion de désir, donner à l'autre le désir de croire. Eh bien, est-ce que nous donnons aux autres le désir de croire ? J'attends beaucoup du pape Léon, qui est un augustinien chevronné, si je puis dire. J'attends beaucoup qu'il nous aide à cela, à ressusciter le désir de croire.
Mais en observant ces 100 premiers jours, diriez-vous que déjà vous voyez les marques très claires de ce qu'il sera ?
Voilà. Oui, non, oui.
Sur les 100 suivants et les 100 d'après.
Oui. Je ne veux pas me laisser enfermer dans les 100 jours, parce que je pense que c'est oui. Une expertise comptable un peu. Bon, voilà, 100 jours, 100 jours. Et puis, comme je vous dis, on a un pape qui ne cherche pas à faire de la... à mousser les choses, si vous voulez. On sent que c'est quelqu'un de beaucoup plus modeste, beaucoup plus... il fait pas du spectaculaire. Moi, ça me plaît plutôt, hein, ça. Ça me plaît plutôt, parce que justement, dans le monde du spectacle, c'est bon d'avoir quelqu'un qui, tout en étant sur le devant de la scène, se montre, pondéré, voilà. Par contre, ce qui m'a marqué, c'est le premier discours qu'il a fait devant les cardinaux. Ça a été une allégeance au Concile Vatican II. Et comme moi, j'ai rarement entendu un pape le faire de manière aussi appuyée. Et il a demandé aussi aux cardinaux qui venaient de l'élire de faire allégeance eux aussi aux intuitions du Concile Vatican II. C'était le 10 mai. Sa première intervention devant les cardinaux. Il demande de faire allégeance aux intuitions du Concile. Pour moi, ça a été quelque chose d'assez saisissant. Je n'ai pas le souvenir. Tous les papes, hein, qui se sont succédés depuis Jean XXIII ont été conciliaires. Aucun n'a remis en question le Concile Vatican II. Aucun. Mais là, j'ai senti chez cet homme qui n'avait que 10 ans à la fin du Concile. Hein. Moi, j'en avais 9, puisque j'ai un an de moins que lui. Donc, on est de la même génération. Ça m'a fait chaud au cœur de l'entendre dire « Moi, je suis un petit-fils du Concile, d'une certaine manière. » Et de demander aux cardinaux de réaffirmer profondément leur attachement aux grandes orientations du Concile. Donc ce soir, tout à l'heure, je dirai cela à nos amis, que c'est sans doute ce qui m'a le plus marqué. C'est pas ce qui a le plus marqué les observateurs, semble-t-il, mais moi, ça m'a marqué, et j'ai relu le discours, et je lirai tout à l'heure l'extrait du discours. C'est très fort, c'est très très fort. Hein. de demander de refaire allégeance. Allégeance, c'est pas rien.
Oui.
De renouveler sa fidélité. Oui. Le mot est très fort. Hein. Oui. L'allégeance au Moyen-Âge, on sait ce que oui, c'était. Oui. Hein. Et j'ai trouvé que là, il y avait un engagement très ferme du pape Léon XIV. Et je n'oublie pas, il ne faut pas oublier que le 8 décembre prochain, il y aura le 60e anniversaire de la clôture du concile. Mais ce n'est pas une clôture. Paul VI avait conçu la cérémonie de clôture du concile Vatican II comme un envoi en mission de tous les baptisés. Il avait envoyé des messages à tous les corps socio-professionnels du monde, les savants, les intellectuels, tous les métiers, les ouvriers, les chefs d'entreprise. Le concile s'adressait au monde. Et donc, j'attends beaucoup de ce qui va se passer le 8 décembre prochain, et sans doute que le pape Léon nous dira quelque chose là-dessus. Comment, aujourd'hui, nous sommes à nouveau envoyés en mission dans le souffle de Vatican II ? Ah, c'est pas rien. C'est le pape du 60e anniversaire de Vatican II.
Merci, je vous remercie Michel Kohl pour cette
émission. Et moi aussi Mathias de m'avoir
témoignage.
Accueilli.
On a vécu un bon moment.
Radio Présence sur le plateau du Larzac, 106.5.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Œcuménisme et dialogue interreligieux, ce sont les deux aspects qui vont dominer le voyage apostolique de Léon.